7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire en France. Il s'agit de coups, de brimades, d'insultes, d'humiliations répétées souvent pendant des mois dans un climat de violence plus général dans l'Hexagone. Rappelons-nous le braquage le mois dernier d'une enseignante par un élève avec une arme factice qui a suscité l'émoi de la communauté scolaire. Emmanuel Macron devrait d'ailleurs annoncer un plan de lutte contre les violences scolaires d'ici la fin de l'année. Et pour l'heure, le débat fait surtout rage sur la présence policière dans les établissements scolaires. Alors revenons aux violences entre les élèves. Pourquoi les profs ne parlent pas alors qu'ils voient beaucoup de choses? Pourquoi les enfants ne parlent pas ni à l'établissement, ni au chef d'établissement, ni à leur famille? Quelle politique de prévention? Quelles sont les méthodes testées qui fonctionnent pour pacifier les collèges et les lycées dans d'autres pays? Pourquoi ne sont-elles pas mises en œuvre dans un pays comme la France? On va en discuter avec nos invités. Catherine Verdier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, vous avez publié « J'aime les autres », les bonnes relations à l'école, si seulement ça pouvait être le cas tout le temps. Vous êtes fondatrice de Psy Famille et vice-présidente de l'association Marion, la main tendue contre le harcèlement scolaire. Rappelez-nous juste qui est Marion.
Marion, c'est la fille de Nora Fraisse qui s'est suicidée il y a 5 ans, je crois maintenant.
Et à l'âge de 13 ans.
À l'âge de 13 ans, suite à du cyberharcèlement. Et Madame Fraisse et son mari, de toute façon, c'est toute une famille quand même qui est touchée, ont créé l'association Marion, la main tendue.
Il faut le dire, le harcèlement scolaire peut conduire au suicide dans des cas extrêmes. Christine et Nico est avec nous également, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychopédagogue et vous aidez des enfants harcelés à se reconstruire. Et parfois, d'ailleurs, ils parlent pour la première fois lorsqu'ils vous rencontrent,
c'est-à-dire
ces enfants-là.
Je les reçois parce qu'ils sont en difficulté d'apprentissage. Et quand on cherche ensemble ce qui se passe, pourquoi ils ont tant de mal à apprendre ou à être concentrés, effectivement, je peux tomber sur cette question-là. Et donc, du coup, ils s'ouvrent, en effet, ils ouvrent une parole qu'ils ont gardée bien au fond d'eux.
Oui, et alors pourquoi les enfants ne parlent pas? On sera également en ligne à Dakar avec Ramatou Touré de l'UNICEF. Cette organisation des Nations Unies a publié un récent rapport, une leçon quotidienne, mettre fin à la violence à l'école, qui portait notamment sur l'Afrique. Il faut savoir que la moitié des adolescents dans le monde sont victimes d'actes de violence dans l'école et aux abords de l'école. Ça fait 150 millions d'enfants tout de même. En Colombie, notre correspondante à Bogota nous dira aussi comment la parole se libère sur le harcèlement entre élèves, trop souvent passé sous silence, jusqu'au jour où un adolescent se suicide et révèle la terrible réalité. Et quant à vous, les voisins et les voisines, on attend bien sûr vos témoignages, vos questions à nos invités, si vous êtes parents, si vous avez vous-même été harcelé ou bien si vous êtes témoin de violence dans votre lycée. Appelez-nous pour partager au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp et vous pouvez laisser des messages écrits.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage de Mathilde Monet. Elle a été victime de harcèlement scolaire pendant 2 ans, en classe de 6e et 5e. Aujourd'hui, elle est âgée de 17 ans. Elle vit à Lyon. Et Inès Edel Garcia a recueilli le témoignage de son calvaire, qu'elle a d'ailleurs aussi raconté dans un livre salvateur, 14 ans harcelée.
C'était à ma rentrée de 6e. Au début, c'était juste une insulte qui venait d'un élève de ma classe. On me traitait de sale castor. Puis cette insulte a été rapidement reprise par ses amis proches, puis ensuite par toute la classe. À partir de la rentrée de 5e, c'était 15 à 20 personnes qui me frappaient pratiquement tous les jours, avec des raquettes à coups de poing, au point que je m'en évanouisse presque. Il y avait du sang, j'ai eu des cicatrices qui sont restées parfois 3 semaines.
Et qu'est-ce que vous ressentiez?
Je me sentais humiliée, j'avais honte, je me sentais coupable. J'avais l'impression de ne pas savoir m'adapter au monde du collège, en fait. Je voyais qu'à chaque fois que je souffrais, ça les rendait encore plus heureux. Et à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est que jamais je ne pleurerai devant eux. Ce que j'ai réussi à tenir, d'ailleurs.
Et à l'époque, à qui vous pouviez vous confier?
Personne. Je cachais tout à mes parents. J'avais quelques amis à cette époque, mais même elle me disait que c'était de ma faute.
Et alors,
Quel impact a eu le harcèlement sur votre scolarité? Est-ce que vous avez développé une sorte de phobie scolaire au point de ne plus aller en cours?
Au collège, j'étais en fait dans un état de survie, c'est-à-dire que j'avais réussi à me dissocier, à plus avoir d'émotions en allant au collège. Et je continuais à y aller jour après jour. J'ai refusé de changer d'établissement. Je ne suis pas coupable, je ne sais pas à partir, c'est eux qui doivent arrêter de me frapper. Et je dois pouvoir être en sécurité dans un établissement scolaire.
Et comment réagissait l'institution scolaire dans ces moments-là?
Sur le moment du harcèlement, il n'y a pas eu de réaction. C'était une période où en fait les professeurs avaient perdu le contrôle de la classe. Et peut-être qu'à ce moment-là, les coups que j'ai reçus sont passés inaperçus au milieu du Capernaum général. Par la suite, quand ils ont été mis au courant des violences que j'avais subies, il n'y a eu aucune sanction. On m'a dit que si je voulais être aidée, il fallait que je reconnaisse que j'avais des torts partagés avec mes harceleurs. On m'accueillait à pied d'égalité avec mes agresseurs et qu'il n'y avait ni bourreau ni victime, que les lois n'existaient pas dans les collèges.
Et ces harceleurs, ils ont dû rendre compte de leurs actes. Comment ils se sont justifiés?
Ils ont dit que c'était de ma faute, que je les provoquais.
Les provoquer dans quel sens?
À ma rentrée de 5e, j'en suis arrivée à un point où je savais de toute façon que je serais harcelée tout le temps et que je ne pouvais rien faire. Donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé d'agir au lieu de subir. Je voulais plus être une pauvre victime martyrisée, comme ils disaient. En fait, je me suis comme dissociée. Quand j'étais au collège, j'étais une autre personne. Je m'appelais la pute de service. Et j'allais vers eux et je leur disais « je vais vous violer » ou des mots de ce genre-là. Et à ce moment-là, quand ils me frappaient, je savais pourquoi ils me frappaient.
Et comment vous avez réussi à en parler à vos propres parents?
C'est grâce aux témoignages que j'ai lus. J'ai vu aussi en fait un enfant être frappé dans la rue par d'autres élèves. C'est comme si je m'étais vue dans cette situation. Et à ce moment-là, je me suis dit « mais personne ne peut mériter ça, c'est pas de ta faute Mathilde ». Et c'est ce qui m'a permis en fait d'aller ensuite voir mes parents et de dénoncer.
Du coup, quand est-ce qu'il a pris fin ce harcèlement?
À la fin de mon année de 5e, donc il a duré 2 années, au moment où j'ai porté plainte contre mes 17 harceleurs principaux. J'ai porté plainte pour violence volontaire aggravée. Il y en a eu 4 qui ont eu un rappel à la loi et les autres n'ont rien eu.
Quand on est dans une telle situation comme vous l'avez été, vers quel type de structure d'accompagnement on peut se tourner?
Je dirais le commissariat. Ils m'ont aidé à me déculpabiliser, à parler, et c'est vraiment ce que je conseille, d'aller porter plainte. Faut pas avoir peur d'en parler, au contraire. C'est en parlant que ça s'arrêtera.
Et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Mathilde?
Aujourd'hui, je dirais que je vais bien. J'arrive enfin à passer à autre chose, même s'il y a des séquelles, d'insomnie, des crises d'angoisse. Mais aujourd'hui, je peux dire que globalement, je m'en suis sortie.
Catherine Verdier, comment vous réagissez? Est-ce que ça bouge enfin ou pas sur le harcèlement scolaire?
Pas assez vite, pas assez fort. Donc c'est ce que je dis et je rappelle, c'est que le temps des victimes n'est pas celui des ministères. C'est vrai qu'au niveau ministériel, il y a des choses qui veulent bouger, qui doivent bouger, qui sont en train de bouger, mais que malheureusement sur le terrain, on ne voit pas. Donc, tout ce qui est formation en particulier par rapport aux enseignants, par rapport aux directions d'école.
Formation à l'écoute et à l'action, savoir comment agir.
Comment agir, que faire, avoir des protocoles, etc., etc. Et puis par rapport aux enfants, formation par rapport aux enfants aussi, ou les ambassadeurs. Pour moi, il en faut dans chaque école, il n'en faut pas.
Mathilde dit, la loi au collège, on me l'a dit, la loi au collège n'existe pas. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en 2018, entendre des propos comme ça dans un établissement scolaire?
Mais c'est terrible, hein. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est la loi du plus fort, la loi du silence, la non-assistance à personne en danger.
Aller au commissariat, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution et surtout la plus accessible pour un adolescent?
Tout le monde peut même déposer une main courante, sans forcément aller jusqu'à la plainte, mais au moins signaler qu'il y a un problème. Mais
la police aujourd'hui est mieux formée pour écouter les adolescents.
Certains, apparemment, tous les témoignages ne convergent pas vers quelque chose de positif, mais enfin, disons que de plus en plus. Puis il y a le 30-20, très honnêtement, je crois qu'il faut le rappeler.
Le numéro vert
qui est accessible aux enfants. S'ils ont un souci ou s'ils ont un problème en France.
Et il y a d'ailleurs beaucoup d'autres pays qui se dotent maintenant de numéros verts. Christine et Nico, est-ce que le harcèlement est suffisamment reconnu comme étant dévastateur, sanctionné par la justice? Là, on l'entend avec le témoignage de Mathilde. Une partie des harceleurs n'ont eu, entre guillemets, qu'un rappel à la loi.
Absolument, c'est certain qu'il y a des tas de défaillances, déficiences et manques. Les drames qui se jouent tous les jours, C'est ça qui est à connaître et à comprendre sur le terrain. Et il y a en effet un énorme décalage entre les volontés, l'expression en tout cas des volontés politiques, des décisions prises, et puis le phénomène qui est tellement... Pardon, tellement énorme qu'on a l'impression que tout le monde est dépassé et que vous parliez de la, du silence des enseignants, eux-mêmes vont dire en effet qu'ils ne sont pas formés, ils sont épouvantés par ce qui se passe et donc en effet il y a une réponse de protection aussi qui se met en place.
Par la violence généralisée.
Par la violence généralisée puisqu'ils sont eux-mêmes aussi, c'est dans ce cadre-là, vous avez eu raison de positionner le problème du harcèlement scolaire des élèves dans un cadre plus large.
Et ils sont eux-mêmes victimes parfois de la violence des élèves et eux-mêmes se plaignent d'ailleurs de leur solitude, ne pouvant pas réellement se reposer sur leur propre hiérarchie. Alors si des enseignants victimes de violence ne peuvent pas compter sur leur hiérarchie, est-ce que les enfants vont pouvoir compter sur la direction d'un établissement scolaire? Franchement, on peut se poser la question.
C'est toute la problématique que vous évoquiez, c'est-à-dire que ok, les enfants ils doivent parler, ils peuvent parler, mais en face il faut qu'ils trouvent un interlocuteur. À qui ils puissent parler et qui puissent apporter au moins un semblant de réponse. Quoi.
Alors,
au moins
il faudrait bien qu'on soit, parce que vous le disiez, comprendre, connaître. Les cours de récréation ne sont jamais des lieux de grande tendresse depuis la nuit des temps. Alors on peut dire qu'il y a véritablement harcèlement et danger pour un enfant à partir de quel moment ?
Le harcèlement, c'est une violence qui est répétée. Donc il y a la notion de répétition, il y a la notion de domination d'un enfant sur un autre. Donc une violence répétée répétée d'un enfant sur un autre, avec cette notion au final d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, le harceleur, je le mets au masculin, mais c'est aussi très souvent au féminin, le harceleur s'aperçoit qu'il abîme l'autre, que l'autre en face est en train de longer les murs, ne veut plus venir à l'école, qu'il pleure, etc.
Le harceleur ou la harceleuse, qui d'ailleurs est rarement seul.
Alors,
amplifie l'humiliation aussi. Hein.
Vous me devancez, effectivement. il y a toute cette notion de groupe, c'est-à-dire qu'en face, on a une victime, on a un harceleur, et on a tout le groupe tout autour qui assiste ou qui poursuit l'action du harceleur, effectivement.
L'UNICEF, là, dans son dernier rapport, disait que plus de 30% des enfants et adolescents déclarent avoir été victimes de moqueries, d'attaques blessantes à l'école. À 7-8 ans, un enfant sur deux s'en plaint. Les garçons en primaire sont les plus touchés par ce type d'épreuve, qui concerne moins les filles d'ailleurs, qui seraient mieux intégrées au milieu scolaire. Mais là-dedans, on inclut aussi, oui, les moqueries du quotidien qui ont toujours existé à l'école.
Mais c'est ça qui a été le piège.
Comment distinguer quand même ce qui vraiment met en danger un enfant, un adolescent? Parce que on a tous subi à un moment donné dans notre scolarité des moqueries des autres enfants.
Oui, je pense que ça a été vraiment le piège. Le piège. Je pense que là, on commence à se rendre compte de la véritable situation et du véritable potentiel de maltraitance, de malfaisance, de cruauté même de certains enfants.
Des dérives de petites violences banalisées.
Oui, mais si vous voulez, la fourchette en effet va de ce qu'on appelle le harcèlement modéré, où on parle même de petites maltraitances, mais il y a quelque chose quand même dans l'œuf qui est là.
De la moquerie au harcèlement grave, effectivement, il y a toute une série de gradations. Alors comment on fait la différence et à quel moment cela nécessite des politiques publiques très volontaristes et l'action de la justice, l'action de la sanction, etc.
Je crois que la violence, de toute façon, est inacceptable. Et les enfants ne peuvent pas se construire avec comme modèle la violence.
On peut mettre un surveillant dans la cour de récréation derrière chaque enfant, pour surveiller chaque propos.
Mais déjà, un surveillant qui ne regarde pas son téléphone, ce serait déjà pas mal, et qui regarde et qui vérifie dans les coins, parce qu'on a des problèmes par rapport au coin dans les cours de récréation, par rapport à la cantine. D'accord, les enfants qui se font cracher dans leur assiette ou qui se font, qui ne mangent jamais avec quelqu'un dans les vestiaires, etc. Donc effectivement, ça se passe. Vous dites, on peut pas mettre un enfant, on peut pas mettre un
là, vous dites, surveillant vous dites derrière chacun. Les adultes, pour une bonne part, ne font pas leur travail de vigilance dans les établissements scolaires.
Mais je crois que on commence seulement à comprendre la gravité de ce qui se passe.
Oui.
Très honnêtement, je crois qu'on n'a pas... Enfin, ça fait plusieurs années que Madame Fraisse et que les associations répètent. Alors, mais je crois que la gravité du problème n'est prise en considération que depuis peu, hein.
Et pourtant, chaque année, les médias, oui. on peut pas reprocher.
Mais grâce aux médias,
très honnêtement, s'emparent du sujet, diffusent des témoignages. Il y a des sites internet qui sont créés grâce aux associations. Et pas seulement, il y a Stop au harcèlement, il y a les sites internet des associations, il y a des conférences de prévention dans les collèges et les lycées. Vous avez participé à monter le Centre européen d'éducation contre le harcèlement. À chaque fois, d'ailleurs, c'est une déferlante de demandes, de marques d'intérêt.
Je confirme. Je confirme. Mais comme me disait une journaliste il n'y a pas longtemps, éduquer, c'est répéter. Donc, répéter. Oui, répéter tous les... Moi, j'ai l'impression de répéter, effectivement, de répéter tous les ans la même chose. Et pourtant, il faut le faire. Et pourtant, aujourd'hui, quasiment... On ne commence plus une émission en me demandant la définition du harcèlement. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, la définition, elle est à peu près claire.
Je pense qu'en effet, la situation d'aujourd'hui, qui en effet a l'air de bouger, on a beaucoup, je parlais de pièges tout à l'heure, parce que oui, ça a toujours existé. Et puis, si un enfant va... une famille va voir des responsables scolaires, le mot, c'était plutôt « ça va passer ». Voilà, ça a toujours existé. Voyez, donc on a beaucoup beaucoup répété ça.
Une situation de harcèlement ne cesse jamais par elle-même comme cela. On peut dire qu'une situation de harcèlement, elle ne cesse que quand les adultes s'en mêlent.
Tout à fait. Tout à fait. Un enfant ne peut pas sortir d'une vraie situation de harcèlement, il ne pourra pas s'en sortir.
Pas tout seul.
Vous restez avec nous et bien sûr, vous nous appelez les voisins et les voisines. On parlait du harcèlement scolaire, ces violences qui sont dévastatrices pour les enfants, pour les adolescents, pas seulement sur le niveau scolaire d'ailleurs, sur le travail scolaire, mais pour la santé, la confiance en soi, la façon dont se construisent ensuite les enfants. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
On prend un appel d'un auditeur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Vincent De Paul.
Bonjour.
Vincent De Paul, vous êtes adulte aujourd'hui. Vous souhaitez nous parler de ce qui s'est passé lorsque vous étiez élève?
Oui, effectivement. J'ai été victime de brimade quand j'étais en classe de CE1, mon frère et moi. Bon, ça s'est passé comment? Ce dernier, il était plus âgé que nous, il avait, voire 17, 18 ans, parce qu'à l'époque, la plupart des élèves, bon, étaient aussi grands, il y avait des petits, mais...
À l'école primaire, il y avait des élèves qui étaient arrivés tardivement à l'école, donc il y avait une très large tranche d'âge et donc des possibilités de domination des grands sur les petits, j'imagine.
C'est ça. Et donc, on était dans la cour de l'école, on jouait au foot. Et il est arrivé que le ballon avec lequel on jouait s'est cassé. Et ce ballon appartenait à ce dernier. Et donc, il a demandé à ce qu'on puisse rembourser son ballon. Et donc, chaque jour, quand on venait à l'école, il nous arrachait notre petit déjeuner, si on avait de l'argent, il le prenait. Et c'était de façon récurrente.
Donc vous étiez privé de nourriture à cause de ce harceleur et,
à cause de cela, oui.
Et c'était bien une situation de harcèlement caractérisée parce que ça se passait tous les jours. Combien de temps ça a duré pour vous et votre frère jumeau, Vincent?
Oui. Bon, ça a duré pendant un bon moment quand même parce qu'on n'arrivait pas à dire cela aux parents et même aux maîtres parce que quand même ce monsieur, il était quand même intimidant parce que même en classe, quand on l'interroge, bon, il refuse d'aller au tableau. Donc déjà,
il intimidait déjà l'enseignant lui-même. Donc effectivement,
ça,
d'accord. Ouais. Et comment ça s'est terminé? Parce que le harceleur a quitté l'établissement?
On en avait marre, donc on est obligé d'informer notre grande sœur. Et cette dernière est confrontée à ce dernier. Ouais. Et puis bon.
C'est votre grande sœur qui est allée parler au harceleur?
Comment?
C'est votre grande sœur qui est allée parler donc à cet élève de 17 ans qui vous harcelait.
Oui, oui, effectivement.
Et ça s'est terminé?
Et ça s'est terminé parce qu'elle a dû en parler aussi à ses amis parce qu'ils étaient dans les grandes classes, je vais dire, en CM2, voilà. Ouais. Et donc, les gens que lui ont pu le maîtriser, bon, à partir de ce jour-là, on partait à l'école tranquillement.
C'est ça, il y a eu un groupe ensuite qui s'est constitué, qui a montré sa vigilance pour vous protéger, vous et votre frère. Merci de nous avoir appelé, Vincent De Paul. On est en ligne à Dakar avec Ramatou Touré de l'UNICEF. Bonjour Ramatou Touré. Est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous, Ramatou Touré? Normalement, nous sommes en ligne avec...
Oui,
Ramatou Touré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Vous êtes donc à l'UNICEF à Dakar. L'UNICEF qui a publié ce rapport, une leçon quotidienne, mettre fin à la violence à l'école. Je voudrais, si vous le voulez bien, Ramatou Touré, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on fait des émissions sur RFI sur le harcèlement scolaire. Pendant longtemps, j'ai cru que le harcèlement entre élèves n'existait pas en Afrique, parce que c'est vrai que le sujet qui fait le plus débat, c'est le harcèlement sexuel des enseignants à l'égard des élèves. Ce sont les châtiments corporels aussi, donc c'est toujours une violence des adultes exercée sur les enfants. Et on parle beaucoup moins de la violence entre pairs. Je voudrais quand même vous lire quelques messages Facebook qu'on a reçus. Et ce n'était pas le cas il y a quelques années. Denis Athanase, vous voyez, on a entendu Vincent De Paul. Denis Athanase à Pointe-Noire qui nous dit « Moi, je me souviens l'époque où l'école était pour certains à 20-30 km du village. Chaque jour, aller à l'école comme au retour. Il y avait beaucoup de violence et de harcèlement qui ont poussé certains à abandonner les études. » Études sont des éléments qu'on retrouve d'ailleurs dans le rapport de l'UNICEF, Ramatou Touré. Sergio Fabrice, qui est à Bangui, en République centrafricaine, où vu le conflit, évidemment, il nous dit que ça gangrène aussi le milieu scolaire et que les enfants centrafricains sont des victimes, mais qu'aucune solution n'est trouvée à ce jour. Alex aussi, on ne connaît pas son pays, mais il a souvent reçu des menaces des plus grands à l'école, au collège, quand il se faisait gronder ses grands parce qu'ils n'avaient pas compris quelque chose et que lui, le petit, avait compris. Il y avait aussi une autre raison, nous dit Alex, les profs avaient tendance à passer par les plus jeunes pour obtenir des informations sur les élèves qui perturbent les cours et du coup, nous étions toujours menacés. Et d'ailleurs, il pose la question, j'aimerais savoir comment dénoncer ceux qui harcèlent et savoir si ça continue à l'âge adulte. Déjà, peut-être juste un mot de commentaire sur des profs qui se servent des élèves pour avoir des informations. Est-ce que réellement c'est la bonne solution ou pas, Ramatou Touré ?
Je veux savoir si c'est la bonne solution ou pas, étant donné qu'ensuite ça donne lieu à des conséquences du harcèlement sur les plus jeunes, je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution. À partir du moment où l'enfant ensuite est victime de violence ou de harcèlement, ça ne doit pas être la bonne solution.
Et à la question, j'aimerais savoir comment dénoncer ceux qui harcèlent et savoir si ça continue à l'âge adulte, bon, si on n'est plus en contact physique avec ces harceleurs. Mais en gros, c'est, est-ce qu'un enfant qui a été harcelé peut avoir un profil, peut conserver cette mémoire de la victimisation ? Catherine Verdier.
Oui. Les conséquences, on parle des conséquences sur les victimes à court terme, évidemment, on peut les énoncer, elles sont nombreuses, mais les conséquences à long terme qui commencent à émerger et la parole de ces victimes de violence commence uniquement à se faire entendre. Et effectivement, c'est des problèmes qui restent de confiance en soi, d'estime de soi, de place, de trouver sa place au sein de son couple, au sein du travail, etc.
Alors, pour revenir au continent africain, Ramatou Touré, quelle est la réalité de ce phénomène de violence entre pairs, finalement ?
En fait, la réalité de ce phénomène de violence entre pairs, on sait qu'elle existe. Comme vous l'avez dit précédemment, il y a sur le continent africain beaucoup de questions et de problèmes de violence sexuelle, de violence des enseignants vis-à-vis des enfants qui, des fois, un peu occultent cette question donc, de violence entre pairs. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'elle existe. On a très peu de données statistiques, en fait, sur les violences donc, entre pairs, mais lorsqu'on interroge les élèves, lorsqu'on a des études qualitatives, ils le notent aussi parmi les principaux auteurs de harcèlement et de violence. Ils notent bien sûr les enseignants et les personnes qui ont autorité, mais aussi les pères.
Alors et ça, il faut quand même le dire, c'est quand même la grosse différence avec la France. C'est que là, effectivement, les enseignants sont impliqués dans le harcèlement scolaire et évidemment le harcèlement sexuel, ce qui n'existe pas, pour ainsi dire, en Europe. Allez-y, Ramatou Touré.
Oui, donc c'est la grande différence. En fait, nous, d'après donc les données que l'on a, et c'est aussi un rapport que l'UNESCO a publié, on sait qu'il y a à peu près 48% donc des élèves qui sont victimes de harcèlement en Afrique subsaharienne. Lorsqu'on regarde les auteurs, on sait qu'on a les enseignants, les chefs d'établissement, mais immédiatement après arrivent les camarades de classe. Et on sait aussi qu'il y a une différence entre les filles et les garçons. On sait que les garçons sont plus souvent victimes de harcèlement de la part de leur père, donc des autres camarades de classe. On sait aussi que les garçons sont plus souvent victimes d'agressions physiques, alors que évidemment les filles, en termes de violence, c'est plutôt donc les violences sexuelles, qu'elles soient perpétrées par leur père, donc ça veut dire les garçons, etc., ou bien par les enseignants ou les chefs d'établissement.
Aujourd'hui, il y a des pays qui se saisissent du problème, qui ouvrent les yeux, qui commandent des enquêtes, qui ont installé des numéros de téléphone. Où est-ce qu'on en est ?
Oui, en fait, plusieurs pays en fait, ont commencé à s'attaquer vraiment à ce problème. Donc, on a, par exemple, au Togo, il y a en fait un numéro qui s'appelle Allo 1011, en fait, qui est un peu comme un numéro vert où, en fait, les victimes de violences et de harcèlement, etc., mais aussi il y a aussi des questions de fuite, etc., peuvent en fait avoir accès à du soutien, à de l'aide. La Côte d'Ivoire aussi a mis en place un système comme celui-là qui permet en fait aux élèves et aux enfants d'avoir accès donc à de l'aide. Et c'est la même chose aussi au Sénégal, même si le système est un peu plus différent parce que au Sénégal, en fait, il implique plus des professionnels de santé, etc., qui peuvent ensuite après apporter de l'aide. Donc, ça veut dire que cette question est quand même prise en charge.
Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'établissement scolaire, puisqu'on sait que les plaintes en justice ont très très peu de chances d'aboutir, mais est-ce que les directeurs d'établissement scolaire se saisissent du problème on saisit la nécessité de reprendre le pouvoir sur ces violences entre élèves?
Oui. Oui, oui. De manière claire, c'est un sujet qui n'apparaissait pas comme une préoccupation principale, je dirais, il y a encore quelques années. Alors que maintenant, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de sensibilisation sur les violences en elles-mêmes, que ce soit par les professeurs ou par les élèves eux-mêmes. Donc il y a quand même une prise de conscience au niveau de l'éducation nationale et au niveau des différents ministères que cette question de violence a un impact très important sur la qualité de l'apprentissage, sur aussi sur la rétention, le nombre d'élèves qui puissent aller à l'école et qui puissent continuer d'aller dans l'école.
Oui, oui, parce qu'effectivement, comme le disait un de nos auditeurs dans un message que j'ai lu, certains sont aussi tentés d'abandonner l'école quand ils sont confrontés à la violence. Merci Ramatou Touré d'avoir été en ligne avec nous de l'UNICEF à Dakar. Merci infiniment. Chez nous en Europe, ça fait quand même très longtemps qu'on a pris conscience, mais entre prendre conscience et agir, on a l'impression que...
Je pense qu'il faut prendre le problème vraiment par le bout. L'origine, il manque considérablement et j'espère que c'est quelque chose qui va exister dans tous les plans, le plan prévention contre le harcèlement. Les enfants, les jeunes aujourd'hui, dans cette société ultra-violente, ou des images
ultra-violentes sur Internet, attendez.
Mais pas que. Les enfants savent. Ils le disent tous, enfin moi, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, ils sont en permanence assommés d'images de violence. Le monde est violent, la société est violente, ils le savent. Les parents préviennent que le monde est violent et qu'il va falloir s'armer. Bon, ils sont nourris à ça. Ils sont, j'ai presque envie de dire, biberonnés à ça depuis leur plus
jeune âge. Et en même temps, ils sont surprotégés par des parents qui consultent des psys à la moindre alerte, à la moindre baisse de moyenne.
Mais c'est l'autre écueil. C'est l'autre écueil. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la fois « t'inquiète pas, ça va passer », et par ailleurs aussi, une surenchère de la protection qui fait qu'on ne sait plus très bien où se placer. Mais je maintiens qu'il faut absolument qu'il y ait une éducation des enfants. Il y a bien de l'éducation sexuelle qui est entrée dans les écoles pour que les enfants, justement, sachent, apprennent à se protéger. On n'a pas le droit de te toucher, etc. Et là, il n'y a pas d'éducation aux émotions pour les enfants. Et qu'effectivement, un enfant, Mathilde, l'exemple de Mathilde est admirable, mais extrêmement rare. Elle a réussi à sortir quasiment seule de l'état de sidération où elle était. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire je ne bouge pas, et finalement c'est normal.
Avec un électrochoc quand elle voit un autre enfant tabasser dans la rue. Il y a aujourd'hui, Catherine Verdier, des méthodes qui sont éprouvées, qui fonctionnent pour pacifier les environnements scolaires. Il y a un message de Lila qui a été posté pour nous au Canada, qui nous dit au Canada, ce problème de harcèlement scolaire est très bien géré. Il y a des problèmes anti-intimidation et l'intimidation dans les écoles est sanctionnée. Aujourd'hui, quelles sont les méthodes que vous souhaiteriez voir se généraliser de prévention et de désamorçage des situations de harcèlement, Catherine Verdier ?
Aujourd'hui, de toute façon, on est pompiers. On est des pompiers, il faut éteindre le feu. Donc ça, c'est au niveau du collège, d'accord ? Il y a la lutte et il y a la prévention. Au niveau de la lutte, il faut absolument qu'on forme tout le monde, que ce soit les adultes ou que ce soit les enfants. Maintenant, au niveau de la prévention, ça fait 2 ans que je martèle, qu'il faut démarrer à partir du moment où les enfants mettent le pied en collectivité. Et quand je vois, j'ai vu ce matin, donc je suis très très en colère, j'espère que ça ne s'entend pas trop,
vous avez le droit d'être en colère.
Les chiffres de l'UNICEF qui disent qu'un enfant sur deux à partir de 6-7 ans est victime de harcèlement scolaire. Donc c'est épouvantable, quoi. Et quand est-ce qu'on va comprendre qu'effectivement, comme vous disiez, qu'il faut prendre le problème en amont et qu'il faut développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la méthode PICAS qui a été, je ne sais pas si je prononce bien, qui a été développée par le psychologue suédois Anatole PICAS dans les années...
Tout à fait.
C'est très vieux, ça date des années 70-80.
Tout à fait.
Ces travaux ne sont toujours pas traduits en français, je crois.
Ils vont l'être, je crois. D'après M. Bellon, ils vont l'être, je crois.
Bah, écoutez, ça aura mis du temps, en tout cas. En quoi consiste cette méthode et pourquoi a-t-elle des résultats positifs ?
Parce qu'elle s'appuie... C'est une méthode non blâmante. C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. Donc, on prend en charge évidemment la victime, on isole ou on sanctionne le harceleur, pas de souci. Mais surtout, pour que ça s'arrête, on s'appuie sur le groupe. C'est-à-dire que chaque membre du groupe, on estime, ou la méthode estime que dans ce groupe, il y a toujours un membre qui n'est pas complètement d'accord
avec
ce qui se passe. Et je vous disais, ce que je disais, c'est que la violence en groupe n'est pas tout à fait la même que la violence individuelle. Donc, on prend chacun des membres de ce groupe et on a des entretiens.
Le groupe qui, en fait, assoit la popularité du harceleur, hein,
complètement,
bien sûr.
Complètement. Bah, s'il n'y a pas de rire, il n'y a pas de harcèlement.
C'est ça, exactement. Donc on travaille avec le groupe et on fait quoi ?
Ce sont des petits entretiens individuels très très courts, entre 1 et 3 minutes, et on amène chacun des membres du groupe à trouver une solution pour la victime. Qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour améliorer le quotidien de telle ou telle personne. Voilà, alors il y en a qui arrivent avec des solutions, il y en a qui sont complètement dans le déni, mais il y en a toujours quelques-uns qui vont mettre des choses en place. Et donc ces entretiens sont répétés.
Ça crée des fissures dans le groupe, c'est ça ?
Ça crée... Alors, on essaie de travailler, évidemment, par rapport à l'empathie, mais c'est très compliqué, l'empathie, au moment de l'adolescence.
Oui, parce que décrit comme ça, ça a l'air très simple. Dans
c'est très simple.
Dans la réalité,
mais
ça
c'est très simple. Il y a même en Suisse, d'ailleurs, j'ai appris ça.
Vous nous
en
dites
Suisse,
aujourd'hui, c'est très simple de lutter contre le harcèlement scolaire à l'école.
Il suffit de le vouloir, oui. Il y a les méthodes. On a tous les outils, on a toutes les méthodes.
Et il suffit de comprendre comment fonctionne un individu, comment fonctionne un adolescent, que ça se met en place très très vite, et qui sont sur le modèle de l'adulte, en fait. Et ça commence tôt, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que cette pratique, elle désamorce les peurs. Elle désamorce les peurs de ne pas dire, elle désamorce la peur aussi même du harceleur qui a peur de la sanction malgré tout quand même. Ce qui est beaucoup plus compliqué, ça peut arriver aussi l'individu qui n'a pas la moindre conscience de l'altérité, de ce qu'est l'autre. Ça, le travail est beaucoup plus difficile, mais il faut travailler sur les peurs de tout le monde. C'est là exactement l'origine de tous les problèmes.
Un auditeur nous appelle de Bamako au Mali au 33 1 84 22 71 71. On parle du harcèlement scolaire aujourd'hui, je crois que vous l'avez compris. Bonjour Wilfried.
Bonjour Emmanuel, c'est Jeff Wilfried.
Oui, Wilfried, vous avez été harcelé à l'école primaire et au collège.
Oui, c'est bien ça.
Vous avez 21 ans aujourd'hui. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais discret. J'étais discret et un peu efféminé au collège et au primaire. Et les gens pensaient que bon, comme j'étais efféminé, j'étais forcément homosexuel, donc j'avais les hommes. Oui. Et ça a continué jusqu'à ce que quand je suis arrivé au collège, je suis quitté de cette école.
Les parents, moi, ils font ça avec nous.
Donc c'était quoi? C'était des insultes sur votre homosexualité présumée?
Oui, c'était bien ça.
Ça pouvait aller jusqu'à de la violence physique?
Non, pas jusqu'à là, parce que c'est avec le C, mais c'est un peu plus strict. Donc, si ça allait jusqu'à là, je ne laisse pas souvent les proviseurs.
Aujourd'hui, avec le recul, comment vous voyez ces événements?
À un moment donné, je pourrais dire que je l'avais accepté. Mais avec beaucoup de recul, j'ai pu prendre ce qui était bon. Nous étions jeunes et peut-être inconscients. Et je l'ai passé sur ma mémoire. Même si c'est un peu trop là, mais je prends sur moi.
Merci en tout cas de nous avoir appelé le cas de l'homophobie aussi, hein, et quelque chose qui peut largement déclencher des phénomènes de harcèlement graves, et d'ailleurs pas que au collège. Alors si on va vers l'homophobie, il y a tous les types de racisme, hein. Il faut se souvenir de cette étudiante il y a quelques jours à l'université Paris 13, étudiante en médecine qui a porté plainte pour antisémitisme, victime de harcèlement antisémite. Elle a parlé de la situation d'autres étudiants juifs dans cette université aussi, qui sont victimes de jeux tout à fait accablants, hein, de lancer de kippa, etc. Donc quand on dit que le harcèlement touche le collège, le lycée, en fait on le voit, la violence commence à l'école primaire et ne se termine même pas forcément à l'université, dans un milieu d'adultes éduqués.
C'est tout le problème de la discrimination, c'est tout le problème de l'inclusion. Parce que moi, je veux bien qu'on dise non au harcèlement, j'ai pas de problème, mais j'aimerais bien qu'on dise oui à quelque chose, quoi. Oui, à une école solidaire, bienveillante, je ne sais pas, on l'appelle comme vous voulez. Mais
dans quelques instants, on prend en ligne notre correspondante en Colombie, à Bogota, pour parler de la situation du harcèlement scolaire.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
On est en direct avec notre correspondante en Colombie. Bonjour Marie-Ève de Teuf.
Bonjour.
Le harcèlement scolaire, c'est aussi un sujet dont on parle en Colombie.
Oui, je dirais qu'on en parle de plus en plus. Alors, le sujet est arrivé probablement plus tardivement dans le débat public qu'en Europe. Il faut rappeler que la Colombie a connu un long conflit armé et les horreurs de la guerre ont longtemps accaparé l'attention des médias, des politiques. Le harcèlement faisait un peu figure de problème secondaire. Mais les choses ont beaucoup changé ces dernières années, je dirais depuis 2010 avec le début des négociations de paix, et surtout depuis 2014, à l'occasion du suicide d'un jeune garçon, Sergio Orego, qui avait 16 ans, qui était homosexuel, qui était dans un établissement catholique de Bogota, et qui s'est tué après avoir été victime de harcèlement de la part de ses camarades et des sanctions de la part de la direction d'établissement, qui l'avait surtout en train de s'embrasser avec un autre élève. Alors la mère de Sergio Orego s'est démenée, elle a poursuivi l'établissement en justice et l'affaire est allée jusqu'à la Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt en 2015. Alors cet arrêt, je pense qu'il est important parce qu'il a dit que la justice ancre à l'école, hein, comme le disait Mathilde, disait la loi ne s'applique pas à l'école. Non, en Colombie, il y a une prise de conscience que la loi s'applique à l'école. Et cet arrêt de la Cour constitutionnelle a obligé tous les établissements du pays à ajuster leur manuel de convivialité.
Et qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ces manuels de convivialité, alors, maintenant, en Colombie?
Alors, ce manuel de convivialité, il date d'une loi de 2013, c'est-à-dire juste avant le suicide de Sergio Orego. Il oblige tous les établissements scolaires à adopter des normes de convivialité pour prévenir la violence et pardon, des normes de convivialité et d'éducation aux droits humains et à la sexualité. Et de manuels de convivialité doivent prévenir des mécanismes concrets pour prévenir la violence à l'école. C'est-à-dire que le sujet est vraiment dans la tête, disons, des dirigeants d'établissements. Oui. Donc en 2015, la Cour constitutionnelle a exigé que ces normes incluent le respect à l'orientation sexuelle des élèves et à ce qu'on appelle donc leur identité de genre. Alors l'Église catholique, qui gère beaucoup d'établissements scolaires, a évidemment bondi, mais il se trouve que la ministre de l'Éducation de l'époque, Gina Parodi, était elle-même homosexuelle, c'était de connaissance publique, elle vivait en couple avec une autre ministre. Et du coup, le sujet est devenu assez politique. Ah oui, non. Du coup, Gina Parodi a fait de ce thème de la convivialité à l'école et du respect de l'identité des gens, vraiment sa priorité. Donc le sujet est devenu un peu politique, ce n'était pas forcément...
Oui, un peu beaucoup, ça, un peu beaucoup politique même, oui.
Un peu beaucoup. Mais il a une très grande visibilité, et du coup le harcèlement, alors là, pour orientation sexuelle, est vraiment devenu un sujet du débat public.
Mmh. Est-ce qu'on dispose de chiffres concernant le harcèlement à l'école en Colombie, Marie-Ève de Teuf?
Alors ici, les chiffres disent 20% des enfants, qui sont les chiffres qui placent la Colombie en queue des pays de l'OCDE, disons, mais à peu près à la même hauteur, disons, que les pays de la région. L'Amérique latine est un pays où, comme vous dites, on n'est pas très tendre dans les cours de récréation. D'ailleurs, hors des cours de récréation, hein, l'Amérique latine est quand même le continent où il y a plus d'homicides et les relations sociales peuvent être très violentes. Les chiffres, alors, sur le prétexte du harcèlement, eux, peuvent varier. Certains placent l'homophobie en tête des cas. Des professeurs disent oui, mais les garçons en parlent, ou c'est plus notoire que d'autres sujets. D'autres disent non, l'apparence physique reste le grand sujet. Et là, on peut penser que les filles souffrent terriblement dans une culture où le physique de la femme est encore très exalté, où les publicités sont sexistes, où il y a des concours de beauté partout, et où les petites filles et les adolescentes font les frais de cette... réalité.
Et tout ça, évidemment, ça ne s'arrange pas avec Internet sur la concurrence physique pour les adolescentes. Donc c'est pas tellement différent de chez nous en France.
Voilà, non, c'est très exactement comme en France, évidemment, et comme partout dans le monde. Ici, le harcèlement scolaire, il y a aussi des discriminations raciales, des discriminations sociales. La Colombie est un pays très métissé, mais c'est un pays très classique, on dit ici, on dirait très élitiste en France. Il y a beaucoup moins de mixité sociale dans les collèges qu'en France, parce que dès que les gens ont les moyens, ils retirent leurs enfants de l'école publique pour les mettre dans des écoles privées. Donc l'école publique est vraiment une école pour pauvres. Et du coup, les écoles sont plus homogènes d'un point de vue social. Il faut y ajouter d'ailleurs un phénomène, mais qui n'empêche évidemment pas le harcèlement, parce qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un.
C'est ça. Notamment, alors, on est un peu pressé par le temps, Marie-Ève de Teuf, pardonnez-nous, mais il y a une auditrice qui veut poser une question en direct avant la fin de l'émission. Mais ceci dit, il y a aussi maintenant un nouveau racisme, harcèlement scolaire à l'égard de réfugiés vénézuéliens qui arrivent en Colombie pour les raisons que l'on sait. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire ce que fait le gouvernement, à part la loi que vous avez mentionnée, qui oblige tous les établissements scolaires à avoir ces fameux manuels de convivialité? Juste alors, en quelques mots, Marie-Ève, si c'est possible pour vous, bien sûr.
Alors là, le pouvoir public multiplie les campagnes, et je vous dis qu'elles ont toutes un peu comme sujet le fait de faire ce qu'on appelle l'éducation citoyenne.
Oui.
L'éducation citoyenne, c'est dire les élèves à 4 ans sont des citoyens, et à 12 ans, ils sont des citoyens, et la loi doit entrer à l'école. Mmh. Donc il y a plusieurs campagnes qui ont été menées avec plus ou moins de succès et plus ou moins de moyens par les pouvoirs publics. Sur le thème très spécifique du harcèlement vers les Vénézuéliens qui étaient donc repérés dans certaines écoles, là c'est l'ONU et l'UNICEF et le Haut Commissariat pour les réfugiés qui ont mis en place une campagne qui s'appelle Superfana, qui veut dire mon super pote en espagnol du Venezuela, et qui joue sur des stratégies d'intégration pour essayer de lutter. La plupart des stratégies aussi, ou des campagnes, essaie de toucher cette majorité silencieuse.
Bien sûr. Et il y a vraiment en plus un enjeu dans un pays comme le vôtre, Marie-Ève de Teuf, de pacification de la société colombienne, évidemment, avec le conflit que l'on sait historique. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous et pour ces explications et vos analyses, Marie-Ève de Teuf, en direct de Bogota. Je voudrais qu'on prenne une auditrice qui veut poser une question à nos invités. Lison, 32 ans, qui nous appelle d'Amsterdam. Bonjour Lison.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI. Comme j'ai expliqué à votre collaboratrice, j'ai été, étant enfant et principalement adolescente, victime d'harcèlement à l'école. Ça commence par des petites pousses dans les couloirs, des pichenettes derrière la tête, des croche-pieds, ensuite des insultes, des crachats, etc., jusqu'à devenir journalier. Et j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a un profil d'agresseur ou un profil de victime? Est-ce que les enfants peuvent faire quelque chose? Est-ce que c'est par rapport à eux-mêmes ou est-ce que c'est uniquement l'agresseur, je vais dire, d'un point de vue d'adulte, qui est coupable parce qu'il a un problème, ou est-ce que la tête de Turc, entre guillemets, peut faire quelque chose pour...
Vous avez des enfants aujourd'hui, Lise?
Non. Et justement, c'est là qu'est ma question. Si j'ai des enfants, ben, quel support est-ce que je peux leur apporter pour éviter, quelque part, qu'ils vivent un petit peu ce
que vous avez vécu, bien sûr. Merci de nous avoir appelé, Lison, Christine et Nico.
Oui, écoutez, il y a une clé, celle que j'utilise dans mon cabinet et dont je rêve qu'elle soit... qu'elle serve d'outil, justement, à un niveau tellement plus large et collectif et dans le sein même de l'école. Il s'agit d'éduquer l'enfant à ne pas s'identifier à ce qui est dit de lui. C'est la clé. C'est-à-dire, si tu, effectivement, tu deviens peu à peu celui qu'on dit que tu es, tu es en danger, en grave danger. Donc, c'est cette éducation qui est à faire. Et c'est comme ça, alors je vais prendre un modèle extrémiste, hein, mais c'est comme ça qu'effectivement, ceux qui ont pu survivre au camp nazi ont survécu. Voilà.
En établissant la distance entre
voilà.
la maltraitance
et l'insulte. Je ne suis pas celui que tu dis que je suis. Du coup, il y a une libération de la honte qui fait que la parole va devenir possible. Parce que quand ils ne disent pas aux parents, c'est parce qu'ils se disent qu'ils sont, justement. Donc, ils vont se montrer aux parents dans un état, en effet, de misère psychique, morale, physique, etc. Et c'est ça qui...
Et donc, on a encore moins envie de parler,
bien
évidemment.
Et on a encore moins envie de parler. Parce qu'effectivement, les parents vont entendre, voir un enfant
La question de l'éprisé aussi, c'était sur le profil du harceleur.
Le profil du harceleur, ce que je vous disais, il y a effectivement certaines caractéristiques, certaines personnalités très très fortes qui peuvent être amenées à devenir harceleurs. Mais je vous disais, la violence individuelle n'est pas la même chose que la violence collective. Et là, c'est par rapport au groupe qui est...
Une question de Jean-Franck à Bujumbura, au Burundi, nous dit: comment puis-je reconnaître que mon enfant est harcelé?
Ah, il y a des signes. Il y a des signes auxquels il faut être très attentif. Alors, encore une fois, effectivement, un enfant qui dit « je ne vais plus aller à l'école », ça peut être aussi simplement « il a mal préparé son travail », etc. Mais un enfant qui commence à s'enfermer, qui commence à s'isoler, qui commence effectivement à exprimer qu'à l'école, il n'a pas tellement envie d'y aller, qui tombe malade, qui a des symptômes psychosomatiques, franchement, il faut quand même en effet s'inquiéter. Et là, ce que j'ai pu éprouver, c'est de conseiller à ses parents qui s'inquiétaient quand même un peu de changement, parce que c'est le changement qui est intéressant. C'est d'aller chercher du côté des amis, des proches, si quelque chose, mais pas encore de manière, vous voyez, complètement officielle, mais de libérer la parole aussi de l'ami la plus chère ou du copain.
Ouais. Une dernière question de Frost qui est posée de Cotonou au Bénin. Il a 33 ans, il a été harcelé en CM1, CM2, ça fait donc très longtemps, c'était un petit bout d'enfant. Il nous dit: quand je revois les images dans ma tête, ça me met en colère, comment oublier?
Je crois que ça, malheureusement, c'est pour ça que les enfants ne doivent pas vivre avec ces violences. Ça s'imprime dans l'inconscient, ça s'imprime dans les neurones. On sait aujourd'hui l'impact neuronal de la maltraitance.
Qu'est-ce que vous exigez de toute urgence aujourd'hui, Catherine Verdier, vous qui êtes la fondatrice de Psyfamille, vice-présidente de l'association Marion la main tendue, du nom de cette petite fille qui s'est suicidée à cause du harcèlement il y a quelques années?
Je voudrais que ça aille plus vite, que ça aille plus fort. Je crois que, je répète, on a tous les outils, il faut les mettre en place, c'est tout.
Merci à toutes les deux, Catherine Verdier, Christine et Nico, psychopédagogues. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Vous pouvez bien sûr réécouter toutes nos émissions en podcast et sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, 7 milliards de voisins, on se détend, c'est la fin de la semaine. Mais il y en a pour qui c'est tout le temps la fin de la semaine, des glandeurs professionnels. L'art de la paresse, très mal vu dans nos sociétés de la performance. On en discute et vous aurez la parole, et surtout vous avez le temps pour le faire.